Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, très nombreux. On le dit généralement, mais cette fois c'est vraiment vrai, le vrai. Mon nom est Florian Rochard, je suis le représentant du CETIM ce soir. Cette conférence a été organisée par le CETIM et la Maison des associations, qui est représentée ici par Régis De Battista, qui se trouve ici, là, à mes côtés, et puis est soutenue par Uniter, le CALTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde de Suisse, le GRAD, l'autre syndicat, la plateforme pour une agriculture socialement durable et Attac Suisse. Nous aurons ce soir deux oratrices principales, que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Marie-Monique Robin, qui est à ma droite, à votre gauche, et Valentina Emler-Maiga, qui est cette fois à ma gauche et donc à votre droite. Vous êtes très bon, hein, vous me suivez très bien, je vois. Le thème de cette soirée, c'est Monsanto, OGM et crise alimentaire. Vous avez vu le film réalisé par Marie-Monique Robin sur Monsanto, le monde de Monsanto. Il y a aussi un livre qu'elle a rédigé. Tout cela se trouve à un stand à l'extérieur de cette salle, tout au fond. Il y aura peut-être des dédicaces tout à l'heure, je ne sais pas, je pense. Et puis, il y a d'autres livres aussi, de différentes associations qui soutiennent cette soirée. On aurait pu aborder cette question de Monsanto de différentes manières. Et en fait, Marie-Monique Robin va être un peu le pivot, puisqu'on parle de football ces temps-ci, le pivot de deux conférences, une ce soir et une demain à l'ONU, sur deux angles qui nous permettraient de cerner un peu Monsanto. Monsanto, c'est tristement connu depuis longtemps, comme une multinationale, une transnationale violatrice des droits humains, complice dans des crimes de guerre. C'est la transnationale qui a fabriqué l'agent orange, est pendu largement sur l'ensemble des pays de ce qu'on appelait l'Indochine. C'est aussi un producteur des PCV qui ont produit beaucoup d'empoisonnements, de cancers, de conséquences environnementales et sanitaires extrêmement graves. Et en même temps, c'est maintenant le principal, pas l'unique, producteur d'OGM en agriculture. Demain, on abordera surtout la question de Monsanto comme transnationale et transnationale largement invulnérable, largement impunie. On l'abordera à l'ONU. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour cette conférence demain, ce ne sera pas possible d'y assister parce que les conditions de sécurité, les normes de sécurité à l'ONU sont telles aujourd'hui qu'il faut s'annoncer 48 heures à l'avance, donner son pédigré, etc., etc. Donc, malheureusement, il y a quelques personnes dans cette salle qui sont déjà inscrites, mais les autres, ce ne sera pas possible. Demain, on abordera cette question principalement de la responsabilité des multinationales en général, en prenant l'exemple de Monsanto, dans les violations des droits humains, dans différents types de crimes, et la difficulté de les cerner. Parce que les multinationales et transnationales ont l'art d'être partout et nulle part. Et de poser beaucoup de remparts qui font qu'il est très difficile de les attaquer juridiquement. Chaque droit national est séparé des autres droits nationaux et il faut remonter les filières, et les filières, ça implique des preneurs de licences, des sous-traitants, des succursales qui ont leur statut juridique propre, et jusqu'à remonter au siège aux dirigeants. C'est extrêmement difficile. Le CETIM, avec l'Association américaine de juristes, mène une bataille sur cette question-là au sein de l'ONU depuis une dizaine d'années à peu près, pour essayer de que s'établissent des normes juridiques internationales et des moyens d'attaquer les multinationales et de permettre aux victimes de violations des droits humains de remonter jusqu'au siège et de remonter jusqu'aux dirigeants de ces multinationales. Pour le moment, tout ce processus-là est relativement sur la touche, mais enfin, il en sera question demain dans cette conférence. Mais aujourd'hui, on va s'occuper surtout de la question des OGM. Les OGM avec leurs conséquences de toute nature, sociales, économiques, écologiques, sanitaires. Et on va s'occuper aussi beaucoup des ripostes dans le monde entier par rapport aux OGM, des résistances, et en particulier des résistances en Europe. Et on va traiter en particulier de deux situations qui nous sont proches. La France, vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être approuvée par le Parlement français sur cette question-là, et la Suisse, vous savez aussi qu'on est dans un processus de moratoire ouvert en 2005 jusqu'en 2010, qui vient d'être prolongé jusqu'en 2013 par le Conseil fédéral, et donc une bataille de long terme où le rôle des citoyens, des mobilisations citoyennes, est central. Donc on parlera de cela. Les OGM ont pris une dimension très rapidement planétaire. Les premières commercialisations des OGM se sont développées à partir de 96, pour parler comme ma camarade à ma droite, 96, mais ont connu un développement absolument fulgurant. Il y a maintenant des implantations d'OGM, principalement sur le continent américain, notamment États-Unis, bien sûr, Canada, après il faut partir du sud de l'Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil, et puis quelques autres pays qui les ont aussi adoptés, ou ils sont imposés. C'est en train de s'étendre en Afrique avec des initiatives extrêmement charitables d'une nouvelle révolution verte pour l'Afrique, soutenue par les fondations Bill Gates, Rockefeller et d'autres. Et puis ça...
Oui.
Kofi Annan aussi. Et c'est en train de pénétrer, ou c'est en pénétration assez sérieuse, dans différents pays d'Asie, en Chine, mais aussi en Inde, malgré les résistances énormes, les mobilisations gigantesques qui ont eu lieu en Inde contre l'implantation des OGM. Donc il y a un processus qui se développe. Donc on va parler aussi de cela. Je souhaiterais citer un article qui est paru dans Le Monde hier, signé d'Hervé Kempf, où il dit, puisqu'on sortait aussi de la conférence de la FAO sur la crise alimentaire, Monsanto, premier producteur mondial de semences transgéniques, a publié le 4 juin, donc il y a très peu de jours, à Saint-Louis, États-Unis, sur leur siège, un engagement en trois points. La firme s'engage à, citer, doubler la production du maïs, du soya et du coton en 2030 par rapport à 2000. À, citation, développer des semences qui réduiront d'un tiers les ressources requises d'eau et d'engrais et à aider à améliorer la vie des paysans, dont 5 millions des plus pauvres en 2020. Voilà les promesses de Monsanto. Marie-Monique Robin expliquera à quel point c'est un programme de marketing suggéré par des agences de marketing du point de vue de Monsanto. Et dans cet article, Hervé Kempf souligne que entre Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta et d'autres firmes, ils ont déposé 532 brevets sur les séquences génétiques favorisant l'adaptation au changement climatique. C'est donc le nouvel argument. On va inventer des plantes qui vont supporter plus de sécheresse ou plus d'humidité, probablement aussi. Faut pas s'arrêter là. Et entre Monsanto et BASF, ils ont déjà breveté 49%, 50, des groupes de brevets concernés. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces compagnies essayent d'associer à leur démarche économique, politique, des centres de recherche publics, comme le CIMIL, qui est le Centre international d'amélioration du maïs et du blé, ou d'autres groupes, à ces recherches, et pour se faire les promoteurs des OGM, notamment en Afrique, et comme je l'ai dit, avec la généreuse fondation de Bill Gates et la généreuse fondation de Rockefeller, et, comme l'a précisé Valentina, avec le soutien actif de Kofi Annan. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui avec les OGM. Je l'ai dit, on est dans une période de lutte aujourd'hui, dans une période de résistance dans l'ensemble des pays du monde, entre autres en Europe, qui a été jusqu'à maintenant relativement épargnée par les OGM grâce aux luttes, grâce aux résistances du public, relativement, parce qu'on n'en a pas épargné, véritablement. Le thème de cette conférence ce soir, c'est Monsanto, OGM et crise alimentaire. Alors, est-ce qu'on doit parler d'abord de crise alimentaire? Je crois que c'est une crise de la mondialisation néolibérale. C'est une crise agricole, c'est pas une crise alimentaire simplement. On va pas en traiter ce soir complètement, on va traiter seulement certains aspects de la crise alimentaire. Mais ce que on entend déjà, c'est que les OGM seraient la solution. La solution pour nourrir la population entière de la planète à l'horizon 2030, 2020. Vous venez d'entendre Monsanto qui promet que tout ira mieux demain grâce à cette nouvelle technologie et la générosité, le dévouement au bien-être de l'humanité de cette multinationale, transnationale, comme d'autres, Syngenta, en Suisse, à Bâle. Il faut quand même dire deux mots de cette crise alimentaire, et après je m'arrêterai là pour laisser la parole aux deux oratrices principales de ce soir. On nous dit que c'est une crise de la faim. D'abord, c'est une crise qu'il y a des émeutes de la faim. C'est une émeute. Ces émeutes sont d'abord des émeutes de la pauvreté. C'est l'augmentation des prix de l'alimentation a été simplement la goutte qui a fait déborder le vase ou qui a suscité de nouvelles émeutes, mais elles ne sont pas nouvelles. C'est une crise de la pauvreté massive dans le monde et non pas simplement une crise de la faim. Sur les causes, on nous a dit, il y en a différentes, on nous a dit il y a eu des modifications dans les habitudes alimentaires de différents pays à qualifier d'émergents, la Chine par exemple, qui mange plus de viande. Or, quand les Chinois mangent plus de viande, ça va plus. Bon, nous, on mange plus de viande depuis 30 ou 40 ans, 50 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une mauvaise habitude, certainement. Il y a beaucoup d'éléments critiques qu'on pourrait développer là-dessus. Mais quand ça déborde le monde dit développé, là, ça va vraiment plus. On nous a dit aussi qu'il y a beaucoup de spéculation. Et il y a de la spéculation, évidemment. Spéculation qui est encouragée et facilitée par la structure même du commerce agricole mondial, mais c'est certainement pas la cause profonde, parce que les spéculations sont par définition de courte durée. On nous a dit aussi c'est les agrocarburants, et c'est vrai que c'est un vrai problème, et que Jean Ziegler, notre vaillant compatriote, ancien rapporteur sur le droit à l'alimentation, avait tout à fait raison, avec d'autres, de réclamer, et a toujours raison, de réclamer un moratoire sur les agrocarburants, ou les biocarburants, comme on les qualifie imbécilement. Mais certainement que si, par exemple, par rapport au Mexique, c'est une des causes de la hausse du maïs, c'est une cause indirecte. Simplement, il faut remonter en amont et se rendre compte que, d'abord, l'ouverture du marché mexicain au maïs américain, états-unien, a été forcée par l'ALENA, ce qui a tué largement la production indigène, et qu'ensuite, les grands producteurs l'agro-business des États-Unis trouve un meilleur prix pour le maïs pour l'agrocarburant, destine plus sa production à un rempart de pétrole artificiel biologique, les tankers des voitures, plutôt qu'à nourrir les êtres humains. Donc c'est certainement des causes, mais des causes superficielles. Et je crois qu'il faut remonter pour comprendre le mouvement de ce qu'on appelle la crise alimentaire à des causes beaucoup plus profondes et structurelles. Et je crois qu'il faut dessiner deux mouvements. Un mouvement qui est de fond, qui s'est développé notamment depuis un siècle et que décrivent extrêmement bien Mazoyer et Laurence Roudard dans un bouquin, enfin dans plusieurs publications, un bouquin en particulier qui porte sur l'histoire des agricultures humaines, c'est le fait que en un siècle, la productivité agricole a énormément augmenté, mais seulement pour une extrêmement petite partie des agriculteurs, ceux qui peuvent investir dans des grandes agricultures, dans des grandes exploitations avec une forte machinerie. Ils citent, les deux auteurs, que en 1900, le rapport entre la productivité d'un agriculteur qui travaillait à bras et un agriculteur déjà mécanisé était de 1 à 50, maintenant il est de 1 à 2000. Donc on peut évidemment pas penser que l'agriculteur qui travaille à bras peut supporter la concurrence du... C'est pas l'agriculteur, c'est l'ouvrier agricole qui est sur le tracteur du grand propriétaire qui lui a une productivité de 2000 fois plus grande. Mais le deuxième mouvement qu'il faut dénoncer et cerner, et qui a rendu la situation absolument catastrophique, c'est la politique qui a été mise en route au nom de l'annulation, de la réduction de la dette par la Banque mondiale et le FMI. Les plans d'ajustement structurel qui ont imposé des politiques agricoles tournées vers l'exportation, qui ont imposé aussi l'ouverture des marchés agricoles du Sud, relayé par la suite par l'OMC aux importations, si bien que les agriculteurs du Sud, qui représentent un énorme pourcentage de la population mondiale, se sont trouvés en concurrence directe avec l'agro-business. Et le problème souligné par Mazoyer tout à l'heure et de Laurence Houdard, c'est que aujourd'hui dans le monde, 85% de la population agricole, des paysans, travaillent encore à bras, n'ont même pas d'attelage. Donc 85% de la population agricole, des paysans, se trouvent dans ce rapport extrême d'une productivité de 1 à 2000. Quand on ouvre les frontières, quand on force à ouvrir les frontières, quand on amène la concurrence de la production de l'agro-business sur les marchés intérieurs de tous les pays, on tue l'agriculture. Et ce qui s'est passé, c'est un vieux processus, mais qui s'est accéléré au cours de ces 20 dernières années, ce qui s'est passé dans une majorité des pays du tiers-monde. C'est pour ça d'ailleurs que les trois quarts des malnutris relevé par la FAO, les 853 millions, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, ça augmente chaque année de quelques millions, les trois quarts sont des paysans. Alors voilà la situation, je crois, de fond, dans laquelle on se trouve. Alors est-ce que les OGM vont apporter une solution à cela? Nous ne le pensons pas, mais enfin, sur ce chapitre, je m'en vais laisser la parole à nos deux intervenants de ce soir. Et en premier lieu, à Marie-Monique Robin, qui est l'auteur de plusieurs reportages de télévision, de plusieurs films, de plusieurs livres, mais qui, je crois aussi, est une vraie militante. Quand je vois la série, j'ai regardé sur son blog la série de conférences et de débats auxquelles elle a participé, ne serait-ce que ces derniers jours, les enchaînant l'un derrière l'autre, Je crois que c'est une militante très très active, et ce n'est pas, je peux le dire, qu'une journaliste. Alors je m'en vais d'abord lui céder la parole, ensuite je présenterai Valentina Hemmler-Maiga.